Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Canal Académie. Pour cette émission, j'ai souhaité innover quelque peu et faire ce que nous appelons communément de l'histoire comparative. Peu avant les vacances, en effet, je me suis plongé dans la lecture d'un livre assez connu, le livre de Paul Venn sur la conversion de Constantin quand notre monde est devenu chrétien, un livre qui vient d'être réédité dans la collection du Livre de Poche. Mais j'ai souhaité compléter cette lecture par l'ouvrage de Michel Rouche, sur les origines du christianisme, paru chez Hachette. Or, comme chacun sait, Michel Rouche est l'auteur, chez Fayard, d'une fameuse biographie éditée à l'occasion du 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Cette émission sera donc consacrée à une double conversion que sépare un peu moins de 200 ans, celle de Constantin et celle de Clovis. Peut-on comparer la bataille du pont Milvius en 312-313 remportée par l'empereur avec la bataille de Tolbiac qui vit Clovis faire un serment païen à l'égard du dieu des chrétiens. D'ailleurs, doit-on mettre sur un même pied d'égalité la conversion intime de Clovis avec la conversion publique de Constantin? Les problèmes politiques et sociaux, enfin, soulevés par ces engagements religieux, furent-ils de même nature? Peut-on enfin qualifier ces conversions de bouleversement de l'histoire, de tournant majeur et pourquoi pas de révolution? Autant de questions que nous allons pouvoir poser à l'historien Michel Rouche. Michel Rouche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez à ce micro pour la deuxième fois pour l'émission Un jour dans l'histoire. Je sais que mon collègue Damien Leguet vous a interviewé une première fois. Michel Rouche, je plonge directement dans ce sujet, sur la comparaison de ces deux conversions. Vous avez écrit une biographie de Clovis qui date de 1996 pour le 1500e anniversaire. Alors nous allons revenir sur la date de la conversion et la fameuse date du baptême qui pose problème. Mais vous avez également publié, il y a 3 ans, 2007, un petit livre dans la collection Carré Histoire des éditions Hachette. Vous avez édité donc les origines du christianisme. Et il me semble important, tout d'abord, de voir quel fut le contexte. Est-ce qu'on peut comparer les deux contextes? Est-ce qu'ils sont similaires? Nous sommes dans une situation de guerre civile dans l'un des contextes, mais également dans l'autre. Il y a une certaine anarchie qui règne. C'est la fin de l'Empire d'un côté, ce sont les invasions barbares de l'autre. Bref, que peut-on dire sur ce contexte?
Les deux contextes sont quand même différents. Même s'il y a un fond de guerre civile entre empereurs à cause de la tétrarchie qui échoue, puisque Constantin finit par éliminer tous ses concurrents, mais la guerre civile en Gaule à l'époque de Clovis est une guerre essentiellement sur le plan religieux pour ou contre l'arianisme entre gallo-romains. Donc le contenu social des querelles est complètement différent. Par ailleurs, la situation politique est une situation politique ascendante pour Constantin qui est en train de reconsolider l'Empire romain après les efforts de Dioclétien. Et l'Empire romain de Constantin a duré 150 ans. Il a vraiment construit quelque chose de complètement neuf, alors que Clovis, lui, démarre sur une zone beaucoup plus réduite de l'Empire romain d'Occident et surtout a un choix personnel beaucoup plus important que celui de Constantin contre l'arianisme, alors que cette vision de l'arianisme qu'a eu Clovis est radicalement différente chez Constantin. Par conséquent, il y a des similitudes, mais il y a surtout beaucoup de différences.
Alors, nous sommes avec Constantin au début du IVe siècle, mais le IIIe siècle est majeur, bien évidemment, dans l'histoire des origines du christianisme. Majeur parce que, tout simplement, c'est une religion, si vous me permettez l'expression, émergente et qui se développe à une vitesse incroyable. Quelles sont les causes du succès du christianisme?
Essentiellement, le fait que les religions païennes, qui sont des religions à base rituelle, sont en pleine crise devant un christianisme qui apporte des solutions aux angoisses des contemporains devant les invasions extérieures, mais aussi devant le problème d'une société coupée entre esclaves et hommes libres, et qui apporte une solution de salut alors que les religions antiques païennes ne sont pas des religions de salut, mais sont des religions où l'on cherche à obtenir un pouvoir sur les dieux. Il y a là une différence fondamentale qui fait que, malgré les persécutions de l'Empire romain, ou grâce aux persécutions de l'Empire romain, le christianisme progresse lentement et sûrement, et les dernières persécutions, celles de Dioclétien, qui sont entreprises systématiquement avec tout l'appareil d'État en 306, ces persécutions sont un échec complet. Et elles sont même finalement des persécutions qui arrivent trop tard, au point que Constance Chlore, le père de Constantin, qui est responsable de l'Espagne et de la Gaule à ce moment-là, lorsqu'il reçoit les ordres d'application des persécutions de Dioclétien, il ne les applique pas, considérant que déjà, au fond, le monde romain, occidental ou oriental, est plus ou moins proche d'une conversion massive au christianisme. Il estime que ça n'est pas la peine.
Alors qu'à l'époque de Clovis, bien plus tard, bon, le christianisme est bien installé. En revanche, il y a une division au sein des chrétiens. D'un côté, il y a les Ariens, et de l'autre côté, il y a ce qu'on appellera les catholiques, simplement.
Oui, parce que le mot de catholique a déjà été prononcé aux conciles écuméniques, et puis surtout parce que les occupants barbares qui sont arrivés en Aquitaine en 418 et en 436 en Burgondie ont adopté le christianisme hérétique arien, lequel avait pourtant été condamné au concile de Nicée en 325 et au concile de Constantinople en 381. Il y a donc un pouvoir politique hérétique arien et, parmi les populations gallo-romaines, une partie que nous ne connaissons pas très bien de gallo-romains convaincus que l'arianisme est finalement une solution beaucoup plus pratique que le catholicisme.
Alors vous montrez bien qu'il existe, et là je fais un bond en arrière, donc au temps de Constantin, en tous les cas au cours du IIIe siècle, il existe une naissance, enfin apparaît une théologie, et le christianisme constitue véritablement une alternative, j'allais dire
un autre mode de pensée
et une philosophie du devenir. C'est-à-dire qu'on voit non plus dans le passé, mais on voit dans l'avenir. Est-ce qu'on peut parler d'une révolution chrétienne ?
On peut parler d'une révolution mentale et on peut parler d'une théologie de l'histoire qui a déjà été amorcée par saint Irénée et qui est continuée par les pères de l'Église. La philosophie païenne, du coup, a été extrêmement impressionnée par les progrès de la théologie chrétienne et cherche plus ou moins à l'imiter, avec le néopaganisme incarné par Plotin. Et Plotin est un philosophe païen persuadé de l'unicité de la divinité et qui cherche plus ou moins à répondre au christianisme. Ce qui fait que le mode de pensée des Romains à l'époque de Constantin est philosophiquement néoplatonicien, mais la philosophie néoplatonicienne est déjà plus ou moins une espèce de théologie répondant à la théologie chrétienne. Il y a là deux modes de pensée qui se battent l'un contre l'autre, mais avec une différence extraordinaire, c'est que le devenir historique est inclus dans la pensée chrétienne, alors que la pensée néoplatonicienne est une pensée complètement statique.
Une comparaison des institutions en elles-mêmes, évidemment, l'Église est naissante hein, au 2e, 3e siècle, elle se développe, vous le disiez tout à l'heure, elle se développe institutionnellement, tandis que sous Clovis, il y a véritablement une division et on voit même des évêques, finalement, qui sont en retrait, si ce n'est même en pleine décadence.
Il y a une division de l'épiscopat face à l'arianisme. Certains ne cherchent pas à résister, d'autres cherchent à résister, comme par exemple Sidon Apollinaire, évêque de Clermont, ancien préfet de la ville de Rome, qui est l'un des rares résistants qui cherche à empêcher toute victoire des Visigoths ariens, qui y parvient mais qui est lâché par l'avant-dernier empereur romain et qui finit exilé quelque part dans les Pyrénées avant d'être rendu à sa chère Auvergne sans avoir vraiment réussi, au point que les défenseurs de l'arianisme sont en quelque sorte vaincu et considère que tout le territoire de l'Aquitaine au sud de la Loire est plus ou moins destiné à devenir la proie de l'hérésie arienne. Alors que les Romains qui sont au nord de la Loire et qui ont refusé l'hérésie arienne, eux, sont en proie à une autre sorte d'espérance. Ils espèrent que soit les Francs viendront à leur secours, bien qu'ils soient païens, mais ce sont des soldats romains, soit que, sous l'influence du sanctuaire de Saint-Martin de Tours, les idées catholiques affirmées par les derniers conciles écuméniques pourront finir par triompher, étant donné que le combat ne peut avoir lieu que dans les territoires gaulois, puisque à Rome, il y a un autre roi hérétique arien qui est Théodoric, qui est probablement l'un des hommes politiques les plus intelligents de l'époque par rapport à Clovis, et qui cherche à faire triompher une espèce d'apartheid entre catholiques italiens et hérétiques ariens italiens. Nous sommes dans une situation où même le pape ne peut plus intervenir.
Donc il y a une situation de crise dans l'Église. Il y a une différence notable entre l'époque constantinienne et celle de Clovis, c'est le rôle que jouent des personnages comme Saint Rémy, mais surtout les femmes. Et vous le montrez bien dans votre biographie de Clovis, donc parue chez Fayard, c'est bien évidemment Sainte Clotilde et Sainte Geneviève. Il y a là encore le christianisme, et on ne le dit pas assez, alors qu'on voit le christianisme comme une religion qui a en quelque sorte étouffé la femme, eh bien là c'est une religion qui véritablement exalte la femme et son rôle. Et les premiers personnages, j'allais dire de l'État, puisque Clotilde, vous parlez du mariage de Clotilde, non pas du mariage de Clotilde et de Clovis, mais vous parlez du mariage de Clotilde, puisque Clotilde est plus importante que Clovis.
Oui, parce que le christianisme a trouvé parmi ses premiers adeptes les femmes qui ont considéré que le christianisme était une religion qui les libérait, au point que les philosophes païens néoplatoniciens disent « on n'y peut rien et on n'arrivera jamais à enlever de la tête d'une femme des idées fausses ». Par conséquent, ils constatent eux-mêmes que ce sont les femmes qui mènent en quelque sorte le développement du christianisme et du catholicisme au 4e, 5e et 6e siècle. C'est le cas de Geneviève qui est diaconesse et qui est en même temps membre du conseil municipal de Paris et qui cherche à tout prix à faire convertir Clovis au catholicisme, aidée, pense-t-elle, par Clotilde qui, elle, fait partie d'un clan burgonde qui a accepté le catholicisme alors que la majeure partie des Burgondes sont devenues ariens. Et ces femmes jouent un très grand rôle, tout comme Hélène, à l'époque de Constantin, a joué aussi un grand rôle, mais un rôle complètement différent, un rôle de mère réparatrice. C'est pour réparer les crimes de Constantin que Constantin a envoyé sa mère construire le Saint-Sépulcre à Jérusalem et des édifices religieux extrêmement importants. Vous savez que d'ailleurs, de toutes les basiliques constantiniennes, seule la basilique de Bethléem est encore debout.
L'idée de mariage est très importante dans la conversion de Clovis. Elle participe de cette conversion, alors que Constantin, on parlera davantage d'une conversion personnelle. Bien sûr, il y a une conversion personnelle chez Clovis, mais son mariage joue un rôle à la fois religieux, mais politique.
Oui, parce que les strates nobiliaires des tribus germaniques sont extrêmement précises et les souvenirs des générations nobiliaires sont soigneusement entretenus dans des tribus qui n'ont que la mémoire orale pour se rappeler leurs origines. Or, dans le cas de Clotilde, nous avons affaire à une famille nobiliaire qui remonte à des noblesses originaires d'Estonie jusqu'à 14 générations. Et alors que la génération de Clovis, par rapport au fondateur de la dynastie mérovingienne, n'est que de 4 générations seulement, au fond, Clovis est un noble promu récemment, alors que Clotilde est d'une très ancienne noblesse. Par conséquent, il va épouser Clotilde et pratiquer ce que les sociologues et les anthropologues appellent un mariage hypergamique qui va en quelque sorte donner encore plus de prestige au roi Clovis.
Alors ça lui donne du prestige, mais ce mariage est un mariage public, c'est un mariage chrétien qui est valide aux yeux de l'Église. Voilà.
Et de plus, il faut souligner que Clotilde n'a de cesse, une fois qu'elle a un enfant, de le baptiser dans le rite catholique. Ceci sans que Clovis ait son mot à dire. Il proteste quand il voit mourir l'aîné parce qu'il est mort de maladie à peine baptisé. Et il a reproché vertement à Clotilde de l'avoir baptisé, car s'il avait été dédié au dieu de ses pères, il ne serait pas mort. Mais on en reste là, étant donné qu'après la deuxième maladie du deuxième enfant, il n'y a eu guérison et que par conséquent, l'héritage de la dynastie était assuré à partir de ce moment-là.
Michel Rouche, nous nous retrouvons dans un instant.
Comment sont réalisées les épées d'académiciens ? Pour le savoir, rencontrez Gucci, un des plus célèbres orfèvres du monde. Au cours d'une émission Carrefour des Arts, il explique comment il opère le choix des symboles qui ornent les épées d'académiciens et celui des matériaux qui composent ces pièces uniques. Gucci évoque aussi son parcours de l'URSS à la France. Gucci et les épées d'académiciens, une émission à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à une double conversion, donc la conversion de Constantin et la conversion de Clovis que nous tentons, tant bien que mal, de comparer. Je reçois Michel Rouche, historien, auteur du livre Clovis, donc la biographie de Clovis parue chez Fayard, et enfin auteur également en 2007 du livre Les origines du christianisme, paru dans la collection Carré Histoire chez Hachette. Alors nous avons laissé nos auditeurs avec l'idée que Clovis a toute son importance dans le processus, en quelque sorte, de conversion de Clovis. Pourtant, ce n'est pas elle qui va présider à cette conversion. La conversion, elle est avant tout personnelle. Et ce n'est ni Rémy, ni Geneviève, ni Clotilde qui ont peut-être contribué, mais au fond, ce n'est pas l'élément décisif.
Il y a une différence énorme entre la conversion de Constantin et la conversion de Clovis. La conversion de Clovis est un lent processus qui a duré de 492 à 499 et on sent un homme qui a cherché des solutions. Il y a d'abord eu le fait qu'il admirait comme son père beaucoup Geneviève et que celle-ci certainement a essayé de le convertir et de le faire passer au catholicisme. Il ne semble pas qu'elle ait obtenu beaucoup de résultats, non plus que Clotilde, son épouse, à laquelle d'ailleurs il tient tête et à laquelle il répond avec des arguments pleins de bon sens et qui prouvent que c'était quand même un homme qui avait une pensée personnelle et qu'il savait raisonner par lui-même. Les autres influences qu'il a reçues sont celles d'une part de l'évêque Rémy, que Clotilde l'a envoyé rencontrer. Rémy, l'un des plus jeunes évêques de France, ou plus exactement de Gaulle à cette époque-là, à partir de 470 à peu près. Rémy, qui a été évêque à 22 ans, a essayé de le convaincre essentiellement par des arguments théologiques. Et il semble bien que, là encore, les arguments théologiques n'aient pas du tout influencé Clovis. Après la bataille de Tolbiac, la célèbre bataille au cours de laquelle, se voyant battu, il a imploré le dieu de Clotilde dans sa prière en disant « Si tu me donnes la victoire, je te donne le baptême », ce qui est la preuve qu'il continue à avoir un raisonnement intégralement païen. C'est le bon raisonnement du païen religieux, à savoir « Tu me donnes la victoire, je te donne le baptême ». C'est le principe « Je te donne un bienfait, tu m'en donnes un autre ». Donc c'est un raisonnement d'égal à égal entre le dieu et l'homme. Et ce type de raisonnement prouve que nous avons affaire à un homme qui n'est pas encore chrétien. Et lorsqu'il revient de la bataille de Tolbiac, il prend au passage un ermite qu'il rencontre dans le diocèse de Toul, qui s'appelle Saint Va, qui était un ermite d'origine germanique, avec lequel il a donc pu discuter en langue germanique de questions théologiques, et en particulier de questions mystiques, car il semble bien que Va était surtout un homme de prière et un homme insistant sur la relation personnelle avec Dieu. Et là encore, même si Clovis plus tard a remercié Saint Va en le nommant évêque d'Arras, il ne semble pas que Va ait eu suffisamment d'influence pour convertir Clovis. C'est finalement un événement qui peut nous paraître au premier abord assez renversant, le fait qu'au cours d'une de ses campagnes contre les Visigoths d'Aquitaine, qui défendait l'Aquitaine pour empêcher les Gallo-Romains d'Aquitaine d'appeler Clovis au secours, eh bien, au cours d'une de ces campagnes où il a occupé provisoirement la ville de Sainte, qu'après un échec contre les Visigoths, il revient vers le nord de la Gaule en traversant la ville de Tours et qu'en assistant aux miracles qui ont lieu dans le péristyle autour du tombeau de Saint-Martin de Tours, ils finissent par être convaincus lors de la fête de Saint-Martin de Tours, donc probablement le 11 novembre 496, que ce spectacle les convaincus de la force, de la puissance divine qui permet à des hommes de foi de se rencontrer et de trouver une espérance dans leur vie autour de Martin. Martin, qui est l'apôtre le plus célèbre de toute la Gaule à cette époque-là, et qui lui aussi a été un ermite, qui lui aussi a été un homme hors du commun, repoussant toute hiérarchie cléricale et tout à fait à part dans l'église des Gaules à cette époque-là. L'influence de Martin de Tours va être fondamentale pour la transformation intérieure de Clovis.
Est-ce qu'on peut parler, je me permets de vous couper, est-ce qu'on peut parler tout au long de ce cheminement d'une hésitation religieuse ou bien politique, ou bien les deux?
C'est une hésitation religieuse, puisque de toute façon, sur le plan politique, il ne fait qu'accumuler échec sur échec. Et par conséquent, l'itinéraire religieux de Clovis me semble être différent de son itinéraire politique. Car après tout, il aurait très bien pu arriver à être victorieux sans pour autant se convertir. Le fait qu'il échoue constamment fait qu'il est en contact avec les opinions des différents partis qui se divisent la Gaule et qu'il réfléchit intensément, entouré d'une part par des femmes qui veulent le convertir, d'autre part par des hommes politiques gallo-romains qui disent « c'est pas la peine », d'autre part sa sœur qui est convertie à l'arianisme. Donc il y a là toute une série de débats qui existe d'ailleurs aussi à la cour burgonde, puisque Sigismond, le frère du roi Gondebaud, finira lui aussi par accepter le baptême, mais en 502. Eh bien, je crois que l'itinéraire personnel de Clovis explique sa conversion. Conversion faite d'hésitation et de réalisation de sa promesse, dit Nisier, évêque de Lyon, sans délai. Pour qu'on nous dise qu'il a promis de recevoir le baptême sans délai, c'est que vraiment, il a mis des bâtons dans les roues à tous ceux qui voulaient le faire baptiser le plus rapidement possible. Donc, ce baptême qui a eu lieu le 25 décembre 499 est un baptême de type exceptionnel, étant donné que normalement, le baptême des adultes n'avait lieu que la nuit de Pâques. On a choisi une autre nuit exprès, la nuit de Noël, qui est la nuit de naissance du Christ, pour signifier par là la naissance au christianisme de Clovis, et aussi peut-être plus tard du peuple des Francs, car le peuple des Francs n'a été baptisé que beaucoup plus tard. La conversion de Clovis est une conversion individuelle. Seule sa sœur a renoncé à l'arianisme et une autre sœur a renoncé au paganisme, tandis que sa garde personnelle a été baptisé avec Clovis pour protéger le roi de toute tentative d'assassinat par les païens de son armée, car c'était un risque mortel qu'il prenait.
Alors, je fais un bond dans le temps, en arrière, avec Constantin. Avec Constantin, il n'y a pas de baptême. En revanche, il y a une conversion également qui est liée à cette bataille du pont Milvius.
C'est très curieux. C'est très curieux, on a l'impression qu'avant même la bataille du pont Milvius, puisqu'il s'est proclamé empereur en 306, il semble bien qu'il y ait eu des visions de dieux païens autour d'un dieu soleil, au sanctuaire de Grand dans les Vosges, qui sembleraient faire croire qu'il cherche plus ou moins une religion païenne unificatrice. Et il est remarquable que dans toute la vie de Constantin, Constantin n'ait jamais dit « Jésus » ou Dieu, il a toujours dit, et c'est net dans les lois du code théodosien en particulier, il a toujours dit la divinité. On a l'impression que c'est quelqu'un qui se convertit à l'existence d'un Dieu unique et qui reste encore partisan d'un Dieu païen unificateur, le Dieu soleil, même après la vision du pont Milvius, même après la vision du labarum sur lequel sont gravées les lettres qui et Rho, qui sont les deux premières lettres du mot du Christ. Et il semblerait qu'il y ait en quelque sorte concurrence entre le Dieu soleil et le Dieu Christ, soleil de l'humanité, soleil levant de toute l'humanité. Constantin entretenant soigneusement le doute dans les deux perspectives, de telle manière que finalement beaucoup de gens le suivent. Et après la bataille du pont Milvius, on le voit favoriser l'Église chrétienne, mais sans qu'il ait reçu le baptême. C'est un paradoxe vivant que Constantin. Constantin est un homme d'ordre. Il est un de ces hommes de l'Empire romain d'Orient qui ont rétabli l'ordre après les invasions du IIIe siècle. Il estime que sur le plan religieux, la religion ne doit pas être une occasion de trouble. Et par conséquent, il devait penser que Apollon Hélios ou Apollon Soleil était tout aussi important pour lui que Jésus-Christ. Au point que, après 306, en 312, il proclame le jour du soleil, ce qui est révélateur, jour de congé absolu pour tout le monde, cessation de toutes les activités. Or, le dies solis, le jour du soleil, s'appelle aujourd'hui dimanche. C'est dies dominica, c'est le jour du Seigneur. Alors, la création du dimanche est une œuvre de Constantin, mais dans une ambiguïté absolument totale pour l'époque. Et ceci est très certainement dû au fait que cet homme a toujours hésité, même si sa conversion vers le christianisme s'accentue de plus en plus avec les années, même si les lois qu'il promulgue favorisent de plus en plus l'Église, en particulier en donnant à l'Église la personnalité civile, la capacité de recevoir des dons, une organisation cléricale qui lui permet d'évangéliser le monde romain. Les lois qu'il promulgue sont effectivement des lois qui cherchent à supprimer les superstitions païennes, en particulier la divination, qu'il craint énormément, parce que la divination peut être le lieu de la création de contre-empereurs qui se révolteraient contre l'empereur. Donc, il y a une législation pour le christianisme, en même temps qu'il y a une législation contre le paganisme. Mais de là à dire que sa conversion envers le christianisme est absolument totale, nous sommes extrêmement gênés. Et sur ce plan-là...
Quand vous dites gênés, c'est parce que nous n'avons pas les éléments pour juger ?
Nous n'avons pas les éléments pour juger. Et en particulier, on ne peut être que surpris lorsque cette religion chrétienne, dont il espère qu'elle va créer l'ordre, car encore une fois, c'est un homme d'ordre, voici que cette religion chrétienne connaît un trouble très grave avec la prédication lancée par le prêtre égyptien Arius à Alexandrie, qui crée un trouble extraordinaire en Égypte. Or, l'Égypte est la province la plus riche de l'Empire romain. On ne peut pas se permettre de perdre le blé produit par l'Égypte. Et Arius annonce un dieu, Jésus-Christ, qui est ni plus ni moins qu'une créature, une espèce de créature extraordinaire, une espèce de Tarzan ou de Superman, comme vous voudrez, qui est en quelque sorte inférieur à Dieu le Père. Il refuse, au fond, l'égalité de Jésus-Christ, fils de Dieu, avec Dieu le Père. Et cette position, qui est fort proche du christianisme et qui donne au Christ l'apparence d'un super-héros du même type que l'empereur lui-même, qui est un empereur divinisé, divus, deus, l'empereur assimilé au soleil, il est évident que c'est plus facile à comprendre pour les hommes politiques de ce temps-là qu'une trinité où les trois personnes sont absolument égales, sans confusion ni distinction possible les unes des autres. Il y a là un mystère qui paraît extrêmement gênant pour les contemporains. Et devant le trouble qui éclate, Constantin réunit un concile, le concile de Nicée en 325, et il veut une solution. C'est un homme d'ordre, encore une fois. Or, le concile de Nicée en 325 définit la Sainte Trinité comme Jésus-Christ consubstantiel au Père, en créant un mot nouveau, ousios, qui avait déjà été employé par Tertullien. Et les contemporains, en particulier les Grecs, beaucoup plus que les Latins occidentaux, sont absolument révulsés par l'apparition de ce mot nouveau sur le plan théologique. Et ils en ont pris prétexte pour ne pas se soumettre à la décision du concile de Nicée. Ce qui fait que Constantin, après avoir appliqué les mesures d'exil à l'égard d'Arius en appliquant le concile de Nicée, est petit à petit circonvenu par toute une série de partisans d'Arius, des évêques de cour en particulier, qui disent que ce sont là des choses extrêmement gênantes qui n'ont guère d'intérêt. Et Constantin finit par rappeler Arius d'exil et va jusqu'à dire que la consubstantialité du Verbe éternel avec le Père n'est pas quelque chose d'important. C'est un jeu pour des enfants insensés, des niaiseries à propos desquelles chacun peut penser ce qu'il veut. Vous voyez que la conversion de Constantin est quand même une conversion très curieuse. Il ne sent pas, sur le plan théologique, l'originalité du dogme de la Sainte Trinité et il ne voit pas que l'intérêt du catholicisme est de proclamer ce Dieu qui est un Dieu de relation et non pas un Dieu de domination, car finalement c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un Dieu de domination et on en tire les conclusions politiques du dogme, à savoir que le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont de même nature. On peut créer un totalitarisme spiritualiste avec une définition arienne. C'est au fond très satisfaisant pour Constantin. D'où le trouble profond instauré par le retour de Constantin en faveur d'Arius, qui est mort en 335. Constantin est mort en 337 et il a été baptisé à ce moment-là sur son lit de mort par Eusèbe de Nicomédie, évêque arien. Nous avons là un paradoxe absolument extraordinaire. L'homme qui a généralisé le christianisme, qui a introduit le christianisme dans l'Empire romain en lui donnant sa liberté et en lui donnant son statut juridique, cet homme qui a donné la liberté de culte au christianisme meurt en favorisant l'hérésie arienne dans une perspective d'un totalitarisme chrétien extrêmement curieuse, comme si finalement le système impérial romain ne pouvait pas se détacher d'un empereur qui est quasiment Dieu. D'ailleurs, dans Constantinople, la ville neuve construite par Constantin en 330, il y a une statue d'Apollon Hélios. Et cette statue, c'est la statue de Constantin. Donc il n'a pas vraiment abandonné le christianisme et il n'a vu que les conséquences politiques du dogme de la Sainte Trinité arienne, à savoir, cela favorise son pouvoir. Constantin est certainement, obsessionnellement, un homme de pouvoir.
Michel Rouge, nous retrouvons dans un instant pour la dernière partie de cette émission.
De quel déficit fondamental souffre l'Europe ? Démocratique, culturel, institutionnel, économique ? Le point sur l'Europe en 2009 avec Thierry de Montbrial de l'Académie des sciences morales et politiques au lendemain de la tenue du G20 dans un contexte de récession mondiale. L'Europe de 2009, forces et faiblesses en temps de crise, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Je reçois l'historien Michel Rouche qui nous compare la conversion de Constantin avec celle de Clovis. Dans vos derniers mots, Michel Rouche, avant la pause, il y a une idée qui est très importante, c'est qu'en quelque sorte, l'arianisme favorise une conception totalitaire du pouvoir en liant religion et politique. Or, Clovis, lui, fait un choix inverse et reprend visiblement même les thèses de Gélase qui a distingué le pouvoir temporel du pouvoir spirituel.
Oui, c'est là la grande différence entre Clovis et Constantin. D'autant plus que les débats ont été continuels autour de lui et qu'il a été mis au courant de l'arianisme par sa sœur, tout comme il était au courant des théories et des affirmations théologiques catholiques par Rémy. Il a probablement vu que l'essentiel dans un système chrétien, c'est un système où l'Église reste distincte de l'État, même lorsque l'Église est unie à l'État. Or, à l'époque de Clovis, l'empereur Théodose, ayant remplacé le paganisme, religion d'État, par une autre religion d'État, le catholicisme, il est normal qu'il y ait distinction entre le régime de l'État et le régime de l'Église, puisque les différentes querelles qui ont éclaté après 392 entre Ambroise, évêque de Milan, et Théodose ont fini par aboutir à faire comprendre à l'empereur que l'empereur, ou le roi comme on voudra, n'a qu'à se tenir à l'écart de l'Église et que les relations entre l'Église et l'État sont des relations non pas de domination de l'État sur l'Église ou de l'Église sur l'État, mais des relations d'égal à égal entre les deux institutions. Or, dans une perspective païenne, il était normal que la religion païenne d'État soit totalement soumise à l'État. C'est donc là un différent qui éclate dès le début du 5e siècle. Et le fait que Clovis ait choisi le catholicisme est concrètement traduit par le fait qu'il envoie immédiatement après son baptême à Rome une couronne votive au pape pour reconnaître l'autorité de Saint-Pierre. C'est là quelque chose de capital. Cela prouve que pour lui, l'Église catholique, c'est l'Église qui est fondée à Rome par Pierre et non pas une Église qui repose sur une série de conciles qui auraient défini le dogme d'une manière différente de celle des origines.
Et vous montrez bien d'ailleurs par le commentaire de l'œuvre de Rémy, vous l'appelez Rémy, témoin d'un autre âge, et vous montrez qu'il considérait, je vous cite, qu'il considérait qu'il devait s'incliner devant le roi comme autrefois les évêques devant Constantin. Or, Rémy, en optant pour cette voie, se désolidarise en quelque sorte de ses confrères évêques qui, eux, percevaient cette division entre le temporel et le spirituel.
Tout à fait, tout à fait. C'est un témoin d'un autre âge, Rémy, parce qu'il en reste encore à la définition d'un concile réuni sur l'ordre de Constantin, avec présence de l'empereur, décision par l'empereur, etc., etc. Or, l'Église des Gaules a pris des habitudes radicalement différentes. Elle a pris l'habitude, dans ses conciles, de prendre des définitions théologiques sans l'accord de l'État. On envoie le texte au prince pour qu'il le signe, mais la décision a été prise avant lui. Il y a donc bien autonomie des deux sphères. Et cette autonomie des deux sphères, c'est quelque chose de tout à fait nouveau à la fin du 5e siècle. Et Clovis a beau lui-même donner simplement l'ordre de convocation des conciles, il n'intervient pas dans les discussions. Il ne fait pas pression comme Constantin avait fait pression à la fin du concile de Nicée sur la définition de l'arianisme.
Peut-être une dernière comparaison. Vous montrez bien évidemment, que Constantin crée en quelque sorte une église d'État.
Non, Constantin n'est pas allé jusque-là. Il aurait pu effectivement aller jusque-là. Il donne essentiellement la liberté de culte tout en intervenant dans l'Église. Celui qui a créé l'Église d'État, c'est Théodose. C'est Théodose qui est poussé par les contemporains à remplacer le paganisme religion d'État par le catholicisme religion d'État. C'est-à-dire que, on voit bien ce qui se passe, tous les biens des temples païens sont confisqués par l'empereur. Tout le clergé païen se trouve dépourvu de toutes ses charges. Et ensuite, Théodose donne des biens des temples païens à l'Église catholique. C'est-à-dire une religion d'État remplace une autre religion d'État. Ce qui est une incompréhension de la nature profonde du catholicisme à cette époque-là. Mais on n'est pas capable de penser vraiment qu'il puisse y avoir indépendance des deux sphères.
Là, cette fois, je me tourne vers Clovis. Et finalement, on se dit que Clovis, en se convertissant, avait tout à perdre. Puisque, je vous cite là encore une fois, il faut bien avouer que du strict point de vue des rapports de force, donc rapports de force politique, la décision par surcroît longuement mûrie de Clovis était absurde.
Oui, c'est parfaitement absurde parce que, premièrement, il risque sa vie. Étant donné qu'il abandonne la religion de ses pères et par conséquent tout son peuple peut le massacrer, étant donné que le roi païen, si il ne pense pas comme son peuple et s'il ne cultive pas les dieux des pères, eh bien, il risque d'entraîner le peuple dans la défaite. Donc c'est une première cause de refus de sa royauté. Et deuxièmement, il s'est rendu compte qu'en soutenant l'appareil romain de gouvernement, avec ses fonctionnaires, ses tribunaux, ses cités, etc., il est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux, mais extrêmement actif, parce que après le retour de la conquête de l'Aquitaine visigothique, après la bataille de Vouillé, il a pu recevoir de l'empereur d'Orient Anastase une reconnaissance de son pouvoir légitime, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir politique qui lui vient de Rome et non pas de l'Église. C'est là la grande différence.
Eh bien, Michel Rouge, c'est sur ces quelques mots que nous allons nous quitter. Je vous remercie vraiment d'avoir réalisé ce difficile exercice de comparaison. Au départ, il était prévu de faire une émission simplement sur Clovis et c'est en lisant à la fois votre livre sur les origines du christianisme et le livre de Paul Venn, Quand notre monde est devenu chrétien, que j'ai souhaité faire cette émission. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.
Merci encore et à bientôt.